J'aimerais vraiment que vous priez pour nous, vous priez pour elle également. Quand on sert le Seigneur, on décide d'entrer dans la guerre avec l'ennemi. On décide de nous positionner et l'ennemi peut ne pas désirer ce positionnement. Donc, vraiment, j'aimerais que vous priez pour nous. Est-ce qu'on peut vous prier pour mon épouse, pour ce qu'elle va apporter et que cela nous bénisse ce matin? Tu peux venir, Hilda, prier pour Emmanuel, s'il te plaît. Prions le Seigneur.
Merci, Papa, de nous permettre d'être réunis en ce jour pour la gloire de ton nom. Je te prie pour ton homme servante, la femme de Pasteur Christophe, qui va nous apporter aujourd'hui la parole. Je te bénis pour son cœur, ce cœur qui est disposé à t'écouter, ce cœur qui est transparent et qui se fait un instrument qui n'est pas corrompu, un instrument qui traduit exactement ce que tu veux qu'il traduise. Et que cet instrument-là puisse nous apporter ta gloire en ce jour, pour la gloire de ton nom. En ton nom, Seigneur Jésus, j'ai prié. Amen.
Oui. Bonjour à tous. C'est toujours un privilège d'être là ce matin. Donc, ce qui se passe, c'est que je fais des remplacements. Je vais ranger ça. Je viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi, Père. Je m'attends à toi. Je viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi, Père. Je m'attends à toi. Dieu notre Père, nous nous attendons à toi ce matin. Nous nous attendons à ce que tu sois présent au milieu de nous. Nous nous attendons à ce qu'il y ait des miracles, des guérisons et des signes. Nous nous attendons à être délivrés et restaurés. Nous nous attendons à recevoir de toi une direction pour les décisions que nous devons prendre. Que la louange, l'honneur et la gloire te reviennent. Au siècle des siècles, au nom de Jésus. Amen. Merci Benjamin, merci beaucoup. C'est vraiment gentil. Excusez-moi. Donc, la semaine dernière, nous avons vu que la Bible nous demande d'être équilibrés, d'accord? La Bible nous dit que nous devons aimer notre prochain, mais comme nous-mêmes. Okay? De la même manière que je donne une dîme à l'église, de la même manière, je prends une dîme pour moi, pour me réjouir. Et donc, la Bible nous encourage à nous faire plaisir. Et c'est bien que ça tombe, c'est l'été, faites-vous plaisir, amusez-vous, allez marcher, prenez du temps pour vous. Faites des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire. Faites des choses que vous n'avez pas le temps de faire. Faites-vous plaisir, en fait. Mais parfois, vous savez, on peut avoir de bonnes intentions. Je vais faire des études, je vais me développer, je vais me lancer dans le ministère. Et notre environnement ne nous permet pas de faire ces choses. Parce que nous sommes dans un environnement qui est défavorable, où nous traversons des circonstances qui sont défavorables. Ce que j'appelle un environnement défavorable, on va voir ce que c'est tout à l'heure. Et parfois, on peut penser que Si mon environnement est défavorable, les gens ne m'aiment pas, les gens me rabaissent, les gens ne croient pas en moi, les gens me critiquent, on a tendance à penser que si notre environnement est défavorable, on ne peut pas s'épanouir, on ne peut pas se développer. Et quand on lit la Bible, on a l'impression que vraiment l'environnement, c'est quelque chose qui est important, qui est fondamental. Nous sommes dans Luc, au verset 8, c'est la célèbre parabole du semeur. Donc Luc 8 au verset 5. Un semeur sortit pour semer sa semence. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Elle fut piétinée et les oiseaux du ciel la mangèrent. Verset 7. Une autre partie tomba au milieu des ronces. Les ronces poussèrent avec elle et l'étouffèrent. Ça, c'est la version second 21. Mais quand on prend la version 8 second, on dit « Une autre partie tomba au milieu des épines. » Nous sommes toujours au verset 7. « Les épines crurent avec elle et l'étouffèrent. » Ça veut dire que ce que ce verset nous dit, c'est que quand vous êtes dans un environnement, vous pouvez être une bonne graine, parce que là, on parle d'une bonne graine. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'elle est tombée au milieu des épines. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Les épines l'ont étouffée. Et plusieurs d'entre nous, nous sommes étouffés par les paroles qu'on nous dit au quotidien. Nous sommes étouffés par les circonstances que nous traversons. Nous sommes étouffés par la solitude. Nous sommes étouffés par les problèmes d'argent. Nous sommes étouffés par le manque d'amour de notre entourage. Nous sommes étouffés par le manque de reconnaissance des personnes avec qui nous travaillons. Et quand on a un environnement hostile, ben la plupart du temps, on va finir comme cette graine. Elle a été étouffée et elle est morte. Mais quand on va dans Cantique des Cantiques, au chapitre 2, au verset 2, Cantique des Cantiques, chapitre 2, verset 2, nous avons ce jeune homme. Les experts de la Bible disent que le Cantique des Cantiques, c'est en fait un poème allégorique sur l'amour entre Christ et son Église, parce qu'on dit que la... Les épîtres nous disent que, en fait, l'Église est l'épouse de Christ. Et dans Cantique des Cantiques, nous avons ce jeune homme qui parle à sa fiancée et qui dit « Pareil à un lys au milieu des ronces, tel est mon ami parmi les filles. » Dans la version Luc second, c'est « Comme un lys au milieu des épines, tel est mon ami au milieu des jeunes filles. » Donc, ce verset est la démonstration qu'on peut être une rose parmi les épines. Ce verset nous montre que même si mon environnement est hostile, même si je suis entourée d'épines, même si les gens ne croient pas en moi, même si les gens ne m'aiment pas, même si les gens ne me soutiennent pas, même si les gens pensent que ce que je fais ne vaut rien, je peux, comme une rose, non seulement pousser, mais m'épanouir. C'est pour ça que j'ai intitulé mon message de ce matin, fleurir dans l'adversité. Comment est-ce qu'on fait pour fleurir quand personne ne croit en vous? Comment est-ce qu'on fait pour fleurir quand vos problèmes d'argent vous empêchent de vous réaliser? Comment est-ce qu'on fait? Et il y a une personne dans la Bible qui est l'exemple même de la manière dont on peut fleurir au sein de l'adversité. C'est le plus grand roi qu'Israël ait jamais connu, le roi David. Quand on revient dans l'enfance du roi David, ce que j'appelle la genèse d'un roi, on va se rendre compte de deux choses. David n'était absolument pas considéré par son père. Absolument. Il ne s'est pas construit dans l'amour et dans l'acceptation. Le roi David, il s'est construit dans le rejet, dans l'humiliation et dans le mépris. Et c'est absolument étonnant qu'une telle personne, d'une telle carrure, ait pu grandir et s'est développée dans un tel milieu. Parce que ce genre de milieu détruit les gens. Vous imaginez grandir avec un père qui ne vous considère pas, qui vous dévalorise, qui vous rabaisse. Quand nous revenons dans ce que j'appelle la genèse d'un roi, nous sommes dans 1 Samuel au chapitre 16. L'Éternel dit à Samuel, « Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül ? Je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et pars. Je t'envoie chez Isaïe le Bethléhémite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. » Souligné parmi ses fils. Isaïe en avait 8. Aucune précision. Verset 4. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit et se rendit à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent, effrayés à sa rencontre, et demandèrent, « Ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux ?» Il répondit, « Oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Consacrez-vous et venez avec moi au sacrifice. » Il fit aussi consacrer Isaïe et ses fils, et les invita au sacrifice. Donc, le grand Samuel, nous sommes Samuel, c'est le prophète, le méga prophète d'Israël. La Bible dit que tout Israël savait que toutes les paroles qu'il disait ne tombaient pas à terre. C'est ce qui explique que quand il est venu dans la ville, toute la ville a bougé en se disant, mais pourquoi il vient? Pourquoi il vient? Donc, vous imaginez, ce grand prophète, tout le monde sait que tout ce qu'il dit se réalise, arrive dans la ville et décide d'inviter Isaïe. On ne dit pas qu'Isaïe était quelqu'un de particulier. On ne dit pas que c'était un grand guerrier. On ne dit rien de particulier de lui, on dit juste que c'est un Bethléhémite, donc c'est un habitant de Bethléem. Ce qui signifie qu'il n'y avait rien de particulier. Et Samuel fait passer l'annonce en disant, « Isaïe et tes fils, je vous invite. » Et tes fils. Si moi on me dit, « Emmanuel, tu es invité avec tes enfants, j'en ai 5, je viens avec mes 5. » Ça, c'est le comportement normal d'un parent. Je t'invite avec tes filles, t'en as 3, tu amènes les 3. Parce qu'on a dit tes filles. Ça sous-entend que la personne sait que tu as autant de filles et que ça ne dérange absolument pas que tu emmènes les 3. Aucune consigne, aucun indice. Isaïe ne sait pas pourquoi Samuel l'appelle. Mais je suppose qu'en tant que connaissant que ce que disait Samuel ne tombait pas à terre, il devait se dire c'est quelque chose d'important. C'est quelque chose d'important. On me dit, viens avec tes fils, j'en ai 8, j'amène les 8. Ce n'est pas ce qu'Isaïe a fait. Il en a amené 7. Il a laissé David aller garder les moutons. Ça veut dire que ce père a décidé que parmi ses 8 fils, il y en avait un qui n'était pas digne d'un tel honneur. Toi, tu n'as rien à faire là. Donc toi, tu peux garder tes moutons. Les 7 autres, oui, ça, je crois qu'Isaïe peut avoir quelque chose pour eux là. Je pense que Samuel peut leur dire quelque chose. Mais toi, tu ne ressembles pas à quelqu'un pour qui un prophète, à qui un prophète peut dire quelque chose. Va garder tes moutons. Vous imaginez être cet enfant dans cette maison. Et votre père, on amène la nouvelle à votre père. Que le plus grand homme de Dieu, ou le plus grand, je ne sais pas, groupe de louanges, ou le plus grand chantre qui existe dans le monde, l'invite, et votre père dit, « Toi, tu n'y vas pas. Ce n'est pas ta place. Tu n'as rien à faire là. » Mais je me mets à la place de David, ça a dû faire mal. Et ça ferait mal à n'importe qui. Et beaucoup d'entre nous, on a vécu ça. Des moments où on te dit, c'est pas ta place ici. T'as pas le niveau, t'as pas l'argent, t'as pas le rang, t'as pas le caractère. Parce que pour exclure les gens sont très forts pour dire à eux autres, t'as pas ta place ici, c'est pas ton niveau. Et ça fait très mal quand vous êtes dans une salle de classe, que tout le monde roule ensemble et que vous êtes toujours la personne de trop. Quand on forme des groupes, moi j'ai vécu ça à l'université, on forme des groupes, tout le monde se met en groupe et vous êtes la seule personne qui n'a pas de groupe. Parce qu'il n'y a personne qui vient vous demander si vous voulez être dans un groupe. Et vous êtes comme le vilain petit canard. Mais ça fait encore plus mal quand c'est votre père ou votre mère qui fait ça. Nous sommes dans le verset 6. 1 Samuel 16 au verset 6. Lorsqu'ils entrèrent, il, on parle de Samuel, se dit en voyant Eliab, Certainement, celui que l'Éternel désigne par onction est ici devant lui. Mais l'Éternel dit à Samuel, « Ne prête pas attention à son apparence et à sa grande taille, car je l'ai rejeté. En effet, l'Éternel n'a pas le même regard que l'homme. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Isaïe appela Abinadab et le fit passer devant Samuel. Samuel dit, « L'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. » Isaïe fit passer Shammah et Samuel dit, « L'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. » Isaïe fit passer sept de ses fils devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe, « L'Éternel n'a choisi aucun d'eux. » Puis Samuel dit à Isaïe, « Tous tes fils sont-ils là ?» Non mais attendez, on élimine tous les enfants, à aucun moment Isaïe ne pense appeler David. C'est-à-dire que même quand tous les sept ont été éliminés, il ne pense pas à dire « Ah, mais il m'en reste un !» Ça veut dire que dans la tête d'Isaïe, c'était absolument impossible que Samuel ait quelque chose à faire avec David. Parce que si j'ai quatre filles, que j'en amène trois, et qu'on me dit que sur les trois, ce n'est pas celle-là, la première chose que je vais faire, c'est d'appeler la quatrième. Mais Isaïe ne le fait pas. Tous les sept ont été éliminés. Ok, c'est correct. C'est Samuel. Imaginez-vous que c'est Samuel qui demande à Isaïe, « Est-ce que tu n'as pas d'autres enfants ?» Est-ce qu'on peut mépriser son fils plus que ça ? Est-ce qu'on peut rejeter son enfant plus que ça ? C'est un étranger qui te demande, « Est-ce que tu n'as pas un autre enfant ?» Parce que toi, dans ta tête, le huitième n'existe pas. Au verset 11, il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il garde les brebis. Non, il n'a pas sa place ici. Hein? C'est pas, il n'a pas sa place en ta présence. Il garde les brebis, il est juste bon à ça. Alors Samuel dit à Isaïe, « Envoie quelqu'un le chercher, car nous ne prendrons pas place avant qu'il soit arrivé. » Isaïe envoya quelqu'un le chercher. On peut dire en parenthèse, « Enfin !» Il était roux, avec de beaux yeux et une belle apparence. On se demande encore plus, pourquoi son père fait ça? Si on a dit qu'il avait un défaut, il était difforme, il ressemblait à rien, on aurait compris que son père avait un peu honte. Mais quand David arrive, on nous dit qu'il était roux, avec de beaux yeux et une belle apparence. Ça veut dire que l'attitude d'Isaïe n'avait rien à voir avec qui était David. Quelles que soient les qualités que David pouvait montrer, Isaïe avait décidé qu'il ne valait rien. L'Éternel dit à Samuel, « Lève-toi, verse de l'huile sur lui, car c'est lui. » C'est lui. Les gens peuvent ne pas croire en toi. Ce n'est pas grave. Même ton propre père. Moi, je connais des gens à qui leur père a dit « Tu ne feras rien de ta vie. » Ils sont devenus des directeurs de société. Parce que c'est vous qui décidez de la place des paroles des gens dans votre vie. Et David, c'était pire, parce que David, on voit que son père ne le considérait absolument pas, mais ses frères aussi. Et on voit cet épisode dans 1 Samuel au verset 17. Ce qui s'est passé avant, c'est que Isaïe a dit à David d'aller porter à manger à ses trois frères et de se renseigner sur leur état de santé. Et là, on va voir comment Eliab, l'aîné, traite David. 1 Samuel 17 au verset 26. Il arrive, David arrive sur le champ de bataille et il trouve que Goliath, le géant Goliath, terrorise l'armée d'Israël depuis des semaines. Donc il se renseigne sur la situation, ce que n'importe qui aurait fait. 1 Samuel 17 au verset 26. David demanda aux hommes qui se trouvaient près de lui, « Que fera-t-on pour celui qui tuera ce Philistin et qui écartera la honte d'Israël. Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant ? Le peuple répéta les mêmes choses en précisant, « Voilà comment l'on agira pour celui qui le tuera. » Éliab, le frère aîné de David, l'avait entendu parler à ses hommes et il fut enflammé de colère contre lui. Il dit, « Pourquoi es-tu descendu ici ? Et à qui as-tu laissé ton petit troupeau dans le désert ? Je connais ton orgueil et la méchanceté de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. Je connais ton orgueil. » On se rappelle que David est venu parce que son père l'a envoyé. Il n'est pas venu parce qu'il voulait se promener. Il est venu parce qu'Isaïe l'a envoyé. Mais son aîné lui dit, « Je connais ton orgueil. » Pire encore, « Je connais la méchanceté de ton cœur. » Ça, c'est une famille, ça. Votre père vous traite, excusez-moi l'expression, comme la marde, et vos frères font pareil. Le résultat de ça, normalement, ça devait être quelqu'un d'aigri, quelqu'un d'amer, quelqu'un qui ne croit pas en lui. Vous avez un environnement qui ne vous soutient pas, un environnement qui ne vous aide pas. Ce que l'exemple de David nous montre, c'est que même si tu n'es pas aimé, même si tu n'es pas soutenu, même si tu n'es pas encouragé, ça ne veut pas dire que tu vas échouer. Même si personne ne croit en toi, ça ne veut pas dire que tu ne vas pas réussir. C'est toi qui décides. Même si tu es le vilain petit canard de ta classe, qu'il n'y a personne qui veut jouer avec toi, qu'on ne t'invite jamais aux anniversaires, ça ne veut pas dire que tu vas échouer ton secondaire. Même si personne ne t'invite jamais, même si tu es la personne que personne ne regarde, même si dans l'entreprise, ton chef ne te voit pas, il est aveugle quand tu es dans les parailles, ça ne veut pas dire que tu vas échouer dans la vie. C'est toi qui décides. Est-ce que je vais être une rose parmi les épines ? Je vais grandir, je vais prospérer, je vais fleurir au milieu des épines, ou est-ce que je vais laisser les épines m'étouffer ? On a vu une graine que les épines ont étouffée. Mais on a vu une rose, un lys qui s'est épanoui au milieu des épines. Donc c'est toi qui décides. Même si ton père ne t'aime pas. Il a dit que toi là parmi mes fils là, tu ne feras rien. Même si ta mère a dit que tu ne trouveras jamais de mari. C'est pas ça qui va faire ta vie. Même si ton père a payé les études de tout le monde sauf tes études. Quand il s'agit de payer tes affaires, il n'y a jamais d'argent. Il n'y a jamais d'argent quand ça te concerne. Il n'y a jamais de temps quand ça te concerne. Mais tu peux te développer. David n'a pas laissé l'hostilité de ses frères et le mépris de son père le définir. Il aurait pu. Et David a fait quelque chose. Moi, j'ai aimé comment il réagit à ce que son grand frère fait. 1 Samuel 17 au verset 29. David répondit, « Qu'ai-je donc fait ? N'ai-je pas le droit de m'exprimer ?» Et verset 30, j'ai aimé ça. Il se détourna de lui. Il se détourna de lui pour s'adresser à un autre et posa les mêmes questions. Le peuple lui répondit comme la première fois. Qu'est-ce que David a fait ? Il a regardé son frère. Il a dit à son frère, ce que tu dis là, ça ne me concerne pas. Et il a fait la même chose qu'il était en train de faire quand son frère est arrivé. Ça veut dire que David n'a pas dit, mon frère, il m'a mal parlé, il m'a dit n'importe quoi, je rentre à la maison. Comme la plupart d'entre nous, on aurait fait, je suis blessé, il m'a blessé, ça me touche. Comment il a pu me parler comme ça? David a regardé Eliab et il a dit à Eliab, tu sais quoi? Ça ne me concerne pas ce que tu racontes. J'ai un géant à tuer. Je n'ai pas le temps de tes histoires. Et c'est comme ça qu'on devrait faire. Une fille dans ta classe te casse les pieds. C'est parce qu'elle n'a rien à faire. Elle n'a rien à faire. Parce que si elle avait des choses à faire, elle ne s'occuperait pas de toi. Quelqu'un, tu ne lui as rien fait. Tu ne t'occupes même pas d'elle. Tu ne la connais même pas. Elle te déteste. Enzo, Si elle n'a rien à faire de sa vie que de détester les gens, Sarah, ils ont laisse-la te détester. Tu as des objectifs à poursuivre, tu as des choses à faire. Donc tu fais comme David, tu dis ce que tu fais, ça ne me concerne pas. Ce que tu racontes, ça ne me concerne pas. Moi, excuse-moi, j'ai un géant à tuer. Il y a des gens sur votre lieu de travail, ils ne vous aiment pas. Vous ne lui avez jamais rien fait, ils ne vous aiment pas. Ils ne vous aiment pas parce que vous êtes trop beau, vous êtes trop intelligent, vous vous la poussez parce que vos parents sont riches, parce que. Vous êtes né de parents riches. Moi, je ne connais pas un endroit où on choisit, je vais aller chez tel parent. Je ne sais pas s'il y a une salle d'attente des bébés qui dit, moi, je vais naître au Canada, chez un parent ministre, je vais être jolie, avec beaucoup de cheveux. La plupart du temps, les gens vous détestent pour des choses que vous n'avez pas choisies. Vous n'allez pas vous mettre des scarifications sur le visage parce qu'on vous trouve trop beau. Vous êtes beau. C'est tout. Et malheureusement, notre tendance, ça va être que les paroles méchantes, c'est ça qu'on va considérer. On ne va pas faire comme David. Les paroles blessantes, tout le monde de la classe va t'aimer, mais la seule personne qui ne va pas t'aimer, c'est sur elle que tu vas te concentrer. Au point que tu vas aller à l'école avec la boule au ventre pour une personne. Dans une école de 500 personnes. Tu es dans une entreprise de 400 personnes. Il y a une seule personne qui te pourrit la vie. Cette personne va devenir le focus de ta vie. Tout le monde t'a dit que c'était bien. Il y a une seule personne qui t'a dit, tu ne sais pas chanter, tu devrais arrêter, tu es nul comme chantre. Tu arrêtes le ministère. J'ai connu des gens qui ont fait ça. Parce qu'elle a été tellement blessée par les paroles qu'elle a arrêté. Ça veut dire que tu as décidé que la parole de cette personne devenait la parole de Dieu dans ta vie. Les gens ne vont pas toujours croire en toi. Ils vont t'accuser comme Eliab a accusé David de choses que tu n'as pas faites. Ils vont raconter des choses sur toi. Tu vas faire des efforts, personne ne va les voir, mais ce n'est pas ça qui te définit. Tu ne peux pas obliger les gens à t'aimer. Moi, je dis toujours, l'amour ne s'achète pas. Les relations que vous entretenez en vous pliant en quatre, en donnant de l'argent, en faisant des cadeaux, le jour où vous n'aurez plus d'argent, qu'est-ce qui va se passer ? Le jour où vous n'aurez plus la force physique de rendre service, qu'est-ce qui va se passer? Le jour où vous n'aurez plus le temps de rendre visite à cette personne, qu'est-ce qui va se passer? Ce sont des relations utopiques qui, un jour ou un autre, quand tu n'auras plus les moyens d'entretenir la relation, ça va t'exploser au nez et ça va faire mal. Une vraie relation, une saine relation, elle est réciproque. Je te donne de l'argent, ça veut pas, même si tu n'en as pas, mais tu es capable de m'appeler, me demander comment je vais. Ça, au moins, tu peux le faire. Mais on a tendance à se rabaisser pour acheter l'amour des gens. À s'oublier, nous, on s'oublie soi-même. On devient la cendrillon, celle que tout le monde écrase, parce qu'on veut être aimé. Mais ce que j'aime avec David, c'est que l'attitude qu'il a eue envers Eliab, c'est l'attitude qu'il a eue toute sa vie. Quand Saül l'a poursuivi, il est parti. David n'a jamais combattu pour être apprécié. Tu ne m'aimes pas, c'est parfait. T'es correct. On passe à autre chose. Si tu veux vivre et t'épanouir, tu dois apprendre à ne pas te définir au travers du regard des autres. Parce que tant que ce que les autres disent te définit, tu ne peux pas t'épanouir. Parce que tu auras toujours une personne. Quel que soit ce que tu vas faire, tu auras toujours un Eliab dans ta vie. S'il y a des gens qui se reproduisent, c'est les Eliab. Ils sont beaucoup. Ils ont un don d'interprétation des actes des autres. Tu as fait ta chose, tu pensais à rien. Lui, il a déjà interprété et compris ce que tu voulais faire. Et quand tu écoutes son interprétation, tu es même étonné. Tu dis, ah ouais, j'ai fait ça? Ouais, tu as fait ça pour te faire voir. Hein? Ok. Merci de m'informer que je voulais me faire voir. Je n'étais pas au courant. Il y a des gens, on parle des dons d'interprétation de l'esprit. Eux, ils ont le don d'interprétation des paroles et des actes des autres. Et vous n'y pouvez rien. Vous ne pouvez pas changer un Eliab. Vous ne pouvez pas changer quelqu'un qui ne vous aime pas sans raison. Si vous avez blessé la personne, vous pouvez aller lui demander pardon. Mais s'il n'y a pas de raison, vous fouillez, vous fouillez, vous vous dites, mais qu'est-ce que j'ai pu faire à cette personne? Vous ne trouvez pas. Vous ne trouvez pas. Il y a des gens, ils ne vous aiment pas. Vous avez beau chercher. À quel moment on s'est disputé? À quel moment on a fait? Vous trouvez, quand vous avez fini, vous ne trouvez pas, non? Vous faites comme David. C'est bon. On passe à autre chose. On a souvent l'impression, quand on lit la Bible, que David est né, pouf, avec Goliath. Non, non. Ce n'est pas l'épisode de... Avant Goliath, David était déjà connu. Nous sommes dans 1 Samuel 16. L'épisode de Goliath, c'est 1 Samuel 17. Mais déjà dans 1 Samuel 16, au verset 17, Saül répondit à ses serviteurs, « Trouvez-moi donc un homme qui joue bien et amenez-le-moi. » L'un des serviteurs prit la parole et dit, « J'ai vu un fils d'Isaïe, le Bethléhémite, qui sait jouer. » Ça devient un peu intense. En fait, je suis un peu déconcentrée, s'il vous plaît. Excusez-moi, je me déconcentre un peu. Je suis désolée. On est tous passés par là. Moi, j'en ai eu 3 en 1 an. J'ai eu des jumeaux et ma fille en 1 an. Donc, je sais, mais c'est juste que ça. Là, je suis vraiment déconcentrée. Je suis désolée. Je ne voulais pas déranger, mais là, ça me déconcentre en fait. Donc, nous revenons à 1 Samuel 16, au verset 17. Saül répondit à ses serviteurs, « Trouvez-moi donc un homme qui joue bien et amenez-le-moi. » L'un des serviteurs prit la parole et dit, « J'ai vu un fils d'Isaïe, le Bethléhémite, qui sait jouer. C'est un homme fort et vaillant, un guerrier. Il parle bien, a une belle apparence et l'Éternel est avec lui. » Saül envoya des messagers à Isaïe pour lui dire, « Envoie-moi David, celui qui est avec les brebis. » Je redescends un peu. Donc, on voit qu'avant l'épisode de Goliath, David a été déjà connu. Parce que là, celui qui parle, c'est un serviteur de Saül. C'est quelqu'un qui est à la cour du roi. Donc, les gens de la cour du roi savaient déjà que David était un homme fort, un guerrier, qui parlait bien, avait une belle apparence, mais surtout que l'Éternel était avec lui. Et ça, c'est quelqu'un que son père ne considère pas et que ses frères haïssent. Mais il avait déjà la réputation d'être un grand guerrier. David est considéré comme le plus grand roi d'Israël, le plus grand. Plus grand que Salomon. Salomon était plus riche que David. Plus intelligent. Mais celui qui est considéré comme le plus grand roi qu'Israël ait jamais connu, c'est David. Au point que dans Matthieu 21, au verset 9, quand Jésus fait son entrée dans Jérusalem, la foule va crier « Hosanna au fils de David ». Le fait qu'on ait appelé Jésus le fils de David, ça montre la grandeur de ce roi, de ce personnage. Et je me suis demandé, mais comment est-ce qu'il a fait, David, pour être comme imperméable? Parce que c'est quand même pas rien que votre père vous traite comme ça. C'est quand même pas rien que vos 7 frères vous traitent comme ça. Parce que si Eliab lui parlait comme ça, j'imagine pas les autres. Parce qu'en général, l'aîné montre la tendance au reste. Je me suis demandé, mais comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on fait pour être comme imperméable au mépris, à l'humiliation. Et j'ai découvert, je pense, un des secrets de David. Je ne dis pas le secret, mais un des secrets de David. Et ce secret, on le trouve dans 1 Samuel 17 au verset 38. Saül fit enfiler sa tenue à David. Il plaça sur sa tête un casque en bronze et le revêtut d'une cuirasse. David mit l'épée de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher, car il n'avait jamais encore essayé. Mais il dit à Saül, « Je ne peux pas marcher avec cette armure, je n'y suis pas habitué. » Et il s'en débarrassa. Il prit en main son bâton, puis il choisit dans le torrent 5 pierres lisses et les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Enfin, sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. Ce qui se passe là, c'est que David, quelqu'un a dit, soyez vous-même, les autres sont déjà pris. Ce qui se passe là, c'est que on veut donner à David les habits de Saül et David dit, non, c'est pas moi ça. Je vais y aller avec ce que je suis. Et ce que je suis, c'est des cailloux et des frondes. L'arme que j'ai l'habitude d'utiliser, c'est des cailloux et des frondes. Non, je ne vais pas prendre une armure, je ne connais pas l'armure, ce n'est pas moi l'armure. Je vais être qui je suis. Je ne vais pas essayer d'être une autre personne, même si cette personne, c'est le roi. Je vais être qui je suis. Et je vais y aller en tant que David, le berger, qui n'a que des frondes et des cailloux. Et on va voir que cette attitude de David, du fait de refuser de prendre une armure qui n'est pas la sienne, il va le faire tout le temps avec Saül. Nous sommes dans 1 Samuel 24, au verset 3. Saül prit 3000 hommes d'élite choisis sur tout Israël, et il alla à la recherche de David et de ses hommes, jusque sur les rochers des Bouquetins. Là se trouvait une grotte. Il arriva, à des parcs à brebis, qui était près du chemin. Là se trouvait une grotte où il entra pour satisfaire un besoin naturel. David et ses hommes se trouvaient au fond de la grotte. Les hommes de David lui dirent, « Voici le jour où l'Éternel te dit, je livre ton ennemi entre tes mains. Traite-le comme tu le jugeras bon. » David se leva et coupa doucement le pan du manteau de Saül. Après cela, il sentit son cœur battre parce qu'il avait coupé le pan du manteau de Saül. Il dit à ses hommes, « Que l'Éternel me garde de commettre une telle action contre mon Seigneur, celui que l'Éternel a désigné par onction. Qu'il me garde de porter la main contre lui, car il est celui que l'Éternel a désigné par onction. » Par ces paroles, David arrêta ses hommes et les empêcha de se jeter sur Saül. Puis, Saül sortit de la grotte et continua son chemin. Peu après, David se leva et sortit de la grotte. Il se mit alors à crier vers Saül, « Ô roi, mon Seigneur !» Saül regarda derrière lui et David s'inclina le visage contre terre et se prosterna. David dit à Saül, « Pourquoi écoutes-tu les propos de ceux qui prétendent que je cherche ton malheur ? Tu vois maintenant de tes propres yeux que l'Éternel t'avait livré aujourd'hui entre mes mains dans la grotte. On me poussait à te tuer, mais je t'ai épargné et j'ai dit, je ne porterai pas la main contre mon Seigneur, car il est celui que l'Éternel a désigné par onction. » Il ne faut pas oublier qu'à ce moment de l'histoire, David est déjà un roi d'Israël. Donc David aussi a été désigné par onction. Déjà. Mais ce que David dit, c'est que je ne vais pas te suivre, Saül. Saül est venu pour tuer David. Mais quand David a l'occasion de tuer Saül, il dit, moi, ce n'est pas comme ça ma manière de faire. Je ne fais pas comme ça. Je ne vais pas te suivre dans ton meurtre. Je ne vais pas te suivre dans le fait de verser un sang innocent. Moi, David, ce n'est pas ma valeur. Je n'agis pas lâchement. Je ne tue pas quelqu'un dans le dos. Moi, David, je n'agis pas comme ça. Et on a tout doux tendance à dire tout le temps, c'est lui qui a commencé. Je suis méchante parce que les gens étaient méchants envers moi. On pense que les actions des autres justifient nos propres actions. C'est faux. Ce que David nous montre, c'est que tu n'es pas obligé d'être méchant parce que les gens sont méchants. Tu n'es pas obligé d'être injuste parce que les gens sont injustes. Tu n'es pas obligé de tuer parce qu'on veut te tuer. Tu n'es pas obligé de prendre une armure qui n'est pas la tienne. Tu es capable de dire, ça, ce n'est pas moi. Je ne m'abaisserai pas à ça. Tu veux régner par la calomnie, calomnie, mais moi, je ne m'abaisserai pas à ça. Ça, ce n'est pas moi. Tu veux être méchante et tu terrorises tout le monde parce que tu es méchante. C'est bien pour toi, mais moi, je ne vais pas devenir méchante parce que tu es méchante. Je ne deviendrai pas aigrie parce que je suis entourée de gens aigris. C'est ça, décider que ton environnement ne va pas t'étouffer. La clé de David, ça a toujours été de dire, je ne te suivrai pas. Et tu peux décider ce matin, je ne vous suivrai pas. Je ne ferai pas ça, ça c'est pas moi. Ça c'est pas mon armure, ça c'est pas mon comportement, ça c'est pas mes valeurs, ça c'est pas mes attitudes, je ne ferai pas ça. Même si tout le monde me dit, tue-le, tu as le droit de le tuer. David avait le droit de le tuer parce qu'il était venu le tuer. Saül est venu avec 3000 hommes le tuer. Donc si je te tue avant, je ne commets pas de péché. C'est toi qui as commencé. Mais David dit, même si tu as commencé, je ne te suivrai pas. Même si tu m'as blessé en premier, je ne te suivrai pas. Même si tu m'as rejeté en premier, je ne te suivrai pas. À partir du moment où vous décidez de ne pas suivre les gens dans leur comportement, comme David, vous pouvez vous épanouir, même au milieu des épines. Pourquoi ? Parce que les épines n'ont pas d'influence sur vous. On ne peut pas décider comment sont nos parents, comment sont nos amis, comment est notre église, comment sont les personnes avec qui nous travaillons. Vous ne pouvez pas choisir. Vous ne le pouvez pas. Parce que chacun de nous est responsable de ce qui sort de sa bouche. C'est la personne qui décide de ce qu'elle vous dit. Si elle décide d'être méchante, elle sera méchante et vous n'avez aucun contrôle là-dessus. Vous n'avez aucun contrôle sur la manière dont les gens vont vous traiter. Vous n'avez aucun contrôle sur le fait que les gens vont vous aimer ou ne pas vous aimer. Vous n'avez aucun contrôle là-dessus. Mais vous avez un contrôle sur la place que vous allez laisser à ces choses dans votre vie. Et si vous acceptez que ces choses vont vous changer. Moi, j'ai vu beaucoup de gens changer parce qu'on leur avait fait du mal. J'ai vu beaucoup de gens changer parce qu'on leur avait rendu le mal pour le bien. J'ai vu des hommes qui ont investi pour les études de leur fiancée. Et le jour où la fiancée a été diplômée, qu'elle a eu un bon diplôme. Elle lui a dit, en fait, je ne t'ai jamais aimé. Calcule ce que tu as dépensé, je vais te le rembourser. Et j'ai vu comment cet homme a maltraité toutes les femmes qui sont venues dans sa vie après cette femme-là. Mais cet homme était l'un des plus doux et les plus calmes que j'avais connus, mais je l'ai vu devenir méchant. Si vous ne faites pas attention, les gens vont vous changer. L'échec va vous changer. Le rejet va vous changer. Vous allez changer parce que vous allez vous dire, on ne me fera plus jamais ça. Je ne laisserai plus quelqu'un me traiter comme ça. Je ne donnerai plus accès à mon cœur, c'est fini. C'est la première et la dernière fois qu'on me fait ça. Mais quand vous libérez de telles paroles, vous fermez votre cœur. Et parfois, les personnes qui vont venir après dans vos vies, elles vont payer pour quelque chose qu'elles n'ont pas fait. Elles vont payer pour ce que les autres ont fait avant. Il y a des maris aujourd'hui qui payent pour ce que les hommes qui sont venus dans la vie de leur femme avant eux ont fait. Il y a des petites sœurs qui payent aujourd'hui ce que les grands frères ont fait. Il y a des collègues de travail qui payent aujourd'hui pour ce que les collègues de travail précédents ont fait. Il y a des gens qui ont décidé qu'ils ne vont plus jamais aider personne jusqu'à leur mort. À cause de la manière dont ils ont été traités par les gens qu'ils ont aidés. Mais ça, ce sont des personnes qui ont décidé de devenir des Eliab parce qu'ils ont été maltraités par Eliab. Moi aussi, je vais devenir méchant. Moi aussi, je vais devenir agressif. Je n'attendrai plus qu'on m'attaque. Je vais attaquer en premier. Ne laissez pas les gens vous changer. Ne laissez pas l'amertume, la jalousie, l'aigreur des gens qui sont malheureux vous rendre malheureux. Ces gens ne sont pas heureux. Moi, j'ai dit, les gens heureux n'ont pas le temps d'embêter les autres. Quand quelqu'un est épanoui dans sa vie, il n'a pas le temps de vous harceler. Il n'a pas le temps de... Les gens heureux n'ont pas le temps de rendre les autres malheureux. Ce sont les gens malheureux qui travaillent à rendre les autres malheureux. Donc, ayez pitié de ces personnes-là. Et passez. Détournez-vous et avancez. Vous avez le contrôle sur votre vie. Vous avez le contrôle sur votre bouche. Ouais, il faut que je me souvienne, j'ai le contrôle sur ma bouche. Je me parle à moi-même. Et ce que je veux dire, c'est qu'en faisant ça, en ne laissant pas les autres décider de qui vous êtes, c'est là où vous allez gagner. Et vous allez fleurir au milieu des épines. Parce que quand David va refuser de tuer Saül, il va se passer deux choses. Nous sommes toujours dans 1 Samuel 24, au verset 17. Lorsque David eut fini d'adresser ses paroles à Saül, celui-ci dit, « Est-ce bien toi, mon fils David ?» Et Saül se mit à pleurer tout haut. Il dit à David, « Tu es plus juste que moi, car tu m'as fait du bien alors que moi je t'ai fait du mal. Tu démontres aujourd'hui la bonté avec laquelle tu agis envers moi, puisque l'Éternel m'avait livré entre tes mains et tu ne m'as pas tué. » Au verset 20, « Si quelqu'un rencontre son ennemi, le laisse-t-il poursuivre tranquillement son chemin ?» Et là, ce que Saül fait, c'est qu'il va bénir David. Saül est encore le roi régnant. Cette bénédiction, elle vaut beaucoup. Parce que David, il va être le futur roi. Et là, il va être béni par le roi précédent, qui va lui dire « Que l'Éternel te récompense pour ce que tu as fait pour moi aujourd'hui. » Et ce qui est bizarre, c'est qu'après, Saül va toujours chercher à le tuer, hein, ça ne va pas changer, mais il va bénir David. Et ce jour-là, plus important, il va y avoir une passation de service. Saül va faire comme une passation de service, parce qu'il va dire, « Maintenant, je sais que tu règneras. » Et que le royaume d'Israël tiendra solidement entre tes mains. Non seulement il bénit David, mais il bénit le règne de David. Il dira à David, non seulement tu vas régner, mais tu vas réussir. Et il lui dit, jure-moi donc par l'Éternel que tu ne détruiras pas ma descendance après ma mort. Et que tu ne supprimeras pas mon nom de ma famille. Il est en train de préparer le règne de David. Il dit, je sais, par ce que tu as fait, je sais que tu vas régner. Et je sais que le pays va prospérer. Mais promets-moi que tu ne tueras pas mes enfants et mes petits-enfants. David en fit le serment à Saül. Puis Saül retourna chez lui. Et David et ses hommes gagnèrent leur retraite. David n'a pas usurpé le trône d'Israël. Saül le lui a remis. Parce que Saül lui a dit, je sais que tu vas régner. Tu vas régner et tu vas réussir. C'était important que ces paroles-là sortent de Saül pour qu'il soit béni par le roi précédent. Il y a des choses que vous n'aurez pas dans votre vie si vous voulez suivre le comportement de tout le monde. Si David avait tué Saül, il serait venu sur le trône par usurpation. Si vous voulez faire comme tout le monde, vous ne réussirez pas. Ou vous ne réussirez pas selon les normes de Dieu. Vous devez vous affirmer dans vos valeurs. Moi, je ne fais pas ça. Moi, je ne tue pas les gens dans leur dos. Même si tu veux me tuer, je sais que je n'ai pas le droit de te tuer, je ne te tuerai pas. Moi, je ne calomnie pas. Moi, je ne vole pas. Moi, je ne mens pas. Moi, je n'insulte pas. Moi, je n'agresse pas. Moi, je ne suis pas comme ça. Tu veux être Saül, tu veux être Eliab, ça te regarde. Moi, je ne suis pas Saül. Moi, je ne suis pas Eliab. Moi, je suis moi. Je suis une chrétienne, j'ai des valeurs chrétiennes et je suis fière de mes valeurs, même si tu manques de mes valeurs, ce n'est pas grave. Ça te regarde. Même si je deviens ta joke préférée parce que je suis chrétienne, ça te regarde. Tu sais quoi, ça te regarde. Même si tu te moques de moi parce que je ne calomnie pas comme tout le monde, tu sais quoi, ça te regarde. Ça ne me concerne pas. Soyons des hommes de conviction, des hommes de caractère, des hommes de parole. Quand tu dis oui, c'est oui. Quand tu dis non, c'est non. Je ne tue pas. Que l'on veuille me tuer ou pas, je ne tue pas. Je ne vole pas. Même si tout le monde vole dans la société, moi, je ne vole pas. C'est une décision que vous prenez. Et ça ne dépend pas de ce que les autres vous font. Ça dépend de vous. Qu'est-ce que je vais faire ? On m'a fait ça, oui, mais moi, qu'est-ce que je vais faire ? Il est le plus grand roi d'Israël. Il n'était pas le plus intelligent. Il n'était pas le plus riche. Il était méprisé par son père, haï par ses frères. Mais pour l'éternité, Jésus est le fils de David. Jésus est le fils de David. Qu'est-ce que vous décidez d'être ce matin ? Une graine que les épines ont étouffée ? Ou une rose parmi les épines ? C'est vous qui décidez. Est-ce que vous voulez être une rose parmi les épines ? Si vous voulez être une rose parmi les épines, il va falloir être fidèle à vos valeurs, à qui vous êtes. Et ne pas laisser les gens vous transformer, qu'ils soient bons ou qu'ils soient mauvais. Amen. Seigneur, je n'ai pas d'autre Dieu que toi. Tu as dit dans l'évangile de Jean, au verset 38, que des fleuves d'eau vive couleront de celui qui croit en toi. Que ces fleuves d'eau vive coulent de moi ce matin. Que je sois libérée de la honte et de l'amertume causées par le rejet. Que je sois fidèle à mes valeurs et à mes convictions pour marcher en tout temps, conformément à Colossiens 1, au verset 10, d'une manière digne de toi et conforme à l'évangile que j'ai reçu. Dieu notre Père, je sais que tu m'aimes d'un amour infini et inconditionnel. Peu importe les circonstances que je traverse, je sais que selon les actes des apôtres, au chapitre 17, au verset 28, c'est en toi que j'ai la vie, le mouvement et l'être. Peu importe ce que l'on dira de moi, je sais en qui j'ai cru. Et je sais que tu as la puissance de garder le dépôt que tu m'as confié, selon 2 Timothée, chapitre 1, verset 12. Tu es celui qui définit ma valeur. Et je sais qu'à tes yeux, je suis une perle de grand prix. Aide-moi à me voir comme toi tu me vois et à croire en ce que tu peux faire au travers de moi. Éloigne de moi le désir de plaire à tout prix aux autres. Je sais que j'ai de la valeur à tes yeux et cela me suffit. Tu me suffis. Tu suffis à ma paix, à mon bonheur, à ma réussite. Je serai un lys au milieu des épines. Je m'épanouirai dans l'adversité. Au nom de Jésus. Amen.
Je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai été percuté par ce qui vient d'être dit ce matin. Ne pas laisser l'environnement, les autres déterminer qui nous sommes, affirmant nos valeurs, affirmant ce que nous sommes. Être des roses parmi les épines. Que cette parole résonne dans nos cœurs durant cette semaine. Positionnons-nous pleinement comme des chrétiens. Vous savez, on a appelé des chrétiens chrétiens parce qu'on a vu une différence chez eux. Nous devons montrer notre différence. Oui, il y a des gens qui vont nous calomnier. Il y a des gens qui vont nous rabaisser. Mais nous ne les suivrons pas. Parce que nous avons une identité en nous. On va prier. Je vais vous remettre à la grâce de Dieu pour cette semaine. Que cette semaine soit une semaine de positionnement dans ce que nous sommes en Jésus. Seigneur, j'aimerais te bénir, te rendre grâce pour ce merveilleux culte, te rendre grâce, Seigneur, pour cette parole percutante, Seigneur, que nous avons reçue ce matin. Seigneur, permets à cette parole de germer dans nos cœurs et de porter du fruit. Seigneur, nous ne voulons pas être de ceux qui se bornent à écouter, mais nous voulons, Seigneur, pratiquer ta parole. Aide-nous ce matin, durant cette semaine et pour l'avenir, à vraiment mettre en pratique ta parole, Seigneur. Que, Seigneur, la semence que tu mets au-dedans de nous ne soit pas étouffée par notre environnement. Seigneur, c'est mon désir ce matin pour chacun d'entre nous, au nom puissant de Jésus. Amen. Soyez bénis, bon culte, bonne fin de semaine.